décryptualité. Le podcast qui décrypte l'actualité des libertés numériques. Semaine 47, salut Manu.
Salut Mag.
Salut Nolwenn.
Salut Nico.
Salut Luc.
Eh bien, semaine 47, qu'a-t-on dans la revue de presse, Manu?
Alors, une relativement petite revue de presse, 5 articles principaux.
Et on va commencer par l'Archimag, quand les collectivités passent au logiciel libre, par la rédaction.
Donc les collectivités qui donnent des prix, un peu des labels.
Alors c'est pas les collectivités qui les donnent, c'est les collectivités qui les reçoivent. En fait, le label territoire numérique libre, c'est plusieurs associations dont la DULAC, mais aussi la FUL, l'APRIL, et puis je dois sûrement en oublier certaines, qui posent une sorte de questionnaire aux collectivités. Les collectivités répondent et elles mettent en avant leur utilisation de logiciels. Et plus elles en utilisent, plus elles peuvent avoir des petites étoiles ou des niveaux 1, 2, 3, 4, 5. Quoi.
Intéressant, ça s'est passé au Congrès des maires.
De nouveau l'Archimag, ils ont été très compétents cette semaine. Pollution numérique, l'obsolescence logicielle réduit la durée de vie des terminaux, toujours par la rédaction.
Et donc ça parle de l'obsolescence, qui est un sujet qu'on a déjà abordé. Et là, c'est l'April avec Étienne Gonu, notamment, qui est intervenu pour mettre en avant les articles de loi, les amendements qui sont en train d'être déposés, qui sont en train d'être discutés. Pour éviter l'obsolescence programmée.
Du côté du logiciel.
Alors le projet de loi est sur l'obsolescence en général, mais c'est vrai qu'il y a une grosse partie logicielle qui nous intéresse beaucoup à l'April.
C'est très compliqué parce qu'un logiciel, surtout quand il est propriétaire et fermé, on ne sait pas comment il est fait. Et c'est quand même très difficile de prouver qu'il y a l'intention de mettre le système en panne.
Autre article, le figaro.fr, que va changer la vente de l'extension de nom du domaine.org à un fonds privé par Samuel Kahn.
Alors moi, je peux le dire tout de suite, ça va changer, que ça va me faire pleurer. Parce que j'ai plein de domaines en .org et je suis dégoûté que ce soit vendu, ou en tout cas que ce soit en train d'être vendu à une entreprise, soi-disant pour leur donner plus de moyens, mais pas pour changer quoi que ce soit. N'ayez pas de doute, on va pas augmenter les prix, notamment des .org. Et ça me choque un peu, comme beaucoup de gens dans le monde du logiciel libre.
Vessi, lanterne, tout ça.
Transparence et responsabilité algorithmique, c'est compliqué, par Rodolphe Koller.
C'est un sujet qu'on a déjà abordé aussi de nombreuses fois, notamment dans le cadre de l'open data, mais là il est question de Parcoursup, d'intelligence artificielle. Dans tous les cas, c'est pour discuter de l'opacité de certains algorithmes, de certaines façons de travailler et de logiciels qu'on avait auparavant. Et maintenant, on est en train de faire évoluer, et par exemple avec Parcoursup, d'utiliser des logiciels libres et ouverts. Donc c'est mieux pour nous les citoyens. Et c'est du libre, donc ça nous fait plaisir. Mais c'est pas toujours le cas, notamment dans l'intelligence artificielle, ça reste compliqué.
Et donc, le dernier article, mais qui nous intéresse, dans Les Échos, « J'étais frigoriste et je suis devenu développeur logiciel » par Gwenolé Le Hénaff.
C'est quoi un frigoriste ?
C'est quelqu'un qui s'occupe de frigos, d'une manière générale, et qui travaille dans le froid, qui installe des frigos, qui fait la maintenance des frigos, qui va travailler dans des boucheries, dans des services de vente de produits froids.
D'accord, mais en fait, c'est pas ça le sujet principal.
C'est pas ça le sujet principal, mais c'est de là dont on part, car il y a quelqu'un dont on voit la photo sur l'article, dont on a retracé le parcours, quelqu'un qui a fait des études supérieures, mais qui les a arrêtées en cours de route, qui s'est tourné vers ce métier, qui lui plaît. Mais par ailleurs, il a continué à faire de l'informatique, à se former au code, notamment et surtout en utilisant du logiciel libre, par exemple sur GitHub. Et ça lui a permis à terme, bien qu'il aime bien être frigoriste, mais de faire un autre métier qui lui plaît aussi beaucoup, c'est développeur.
Parce que le logiciel libre, on a accès au code source, donc on peut voir comment c'est fait dedans. Du coup, on a toutes les billes pour apprendre par soi-même. C'est un principe élémentaire d'ailleurs du logiciel libre.
C'est une des quatre libertés.
Oui, une des quatre libertés, c'est de pouvoir étudier le code.
Étudier et modifier.
En quoi ça aide à apprendre l'informatique ?
Bah, ça aide beaucoup parce que si on prend le contre-exemple du logiciel privateur, si vous vous retrouvez à vouloir apprendre l'informatique avec des outils privateurs, va falloir... Bah déjà trouver les outils qui sont pas forcément disponibles en ligne. Et
acheter les licences,
réussir à les installer. Et ça, c'est très compliqué. Les environnements professionnels en particulier, dans le monde professionnel, la moindre licence, c'est 10 000, 20 000 euros.
Pour les logiciels les plus utilisés. Ceci dit, il y a une solution que tout le monde utilise plus ou moins.
Bah, le piratage. Ou les partenariats avec les écoles aussi, pour ceux qui ont la chance d'être dans des écoles.
Là, on parle de quelqu'un qui a appris en dehors des écoles. Dans le logiciel libre, on a cette idée du partage du savoir, d'étudier le code, donc on est complètement dans cette logique-là. C'est une logique qui est partagée par ailleurs. Moi, je suis dans un Fab Lab. Un Fab Lab, donc, c'est un lieu où on peut venir expérimenter, toucher à des machines, donc faire du matériel.
Un laboratoire fabuleux.
Voilà, donc c'est du matériel numérique pour bricoler. Et il y a cette même logique d'apprendre par soi-même. Donc, on est dans l'échange, on peut discuter avec les gens. Mais effectivement, c'est pas un truc où on va arriver soit commander, personne n'est là pour nous servir, ou on va nous prendre à partir de zéro en disant « vous faites ça, ceci, cela ». On doit se débrouiller, apprendre par soi-même, échouer, recommencer, se documenter, discuter, etc., etc.
Ça peut être un peu compliqué d'ailleurs, c'est quand on arrive dans une communauté, au départ, l'entrée dans la communauté peut être un peu rugueuse.
Alors, l'entrée dans la communauté et apprendre, c'est pas exactement la même chose. C'est-à-dire que tu peux avoir une communauté rugueuse, mais tu peux très bien apprendre, je suppose, comme il l'a fait, juste avec du code et sans parler à personne.
Il faut quand même mériter, des fois, c'est un peu ses galons pour rentrer dans un projet. Il y a certains projets qui sont connus pour être très rugueux, je pense le kernel Linux, où il fallait vraiment s'accrocher pour y aller, hein, et il fallait être très expert avant de pouvoir faire la moindre chose dedans. Mais aujourd'hui, les communautés sont de plus en plus ouvertes, on a beaucoup de forums sur GitHub, tout est disponible aujourd'hui, même si c'est une plateforme privateur et possédée par Microsoft. Mais voilà, n'importe qui peut contribuer, c'est assez facile de trouver du support, des aides, tout le monde a des accès sur des forums, et donc c'est beaucoup plus simple qu'avant, où il fallait vraiment se galérer à aller chercher les infos et les contacts.
Est-ce que tu as d'autres communautés qui ne seraient pas des trucs privateurs que tu pourrais citer ?
Il y a Framagit, hein, de Framasoft, qui est aussi de plus en plus utilisé, justement, parce que les gens veulent sortir du monde privateur. Mais aujourd'hui, les grosses plateformes de développement restent quand même assez centrées sur du privateur, malheureusement.
Oui, et puis pour en être positif et revenir au partage de la connaissance, sur Internet, on trouve plein de tutoriaux. Moi, sur Inkscape, j'ai appris beaucoup sur le logiciel, en suivant le tutoriel du logiciel, mais aussi en allant voir sur Peertube ou autres plateformes concurrentes où on trouve de quoi s'améliorer, de quoi progresser avant même d'avoir à contacter la communauté ou de poser des questions. Et Inkscape n'est pas le seul logiciel qu'on peut utiliser sur lequel il y a des tours. Je pense à Gimp qui fait de la retouche d'image. Pareil, on trouve énormément de choses sur Internet.
Scribus aussi, et d'autres outils dont on ne pense pas forcément. Bah, Blender, par exemple.
Oui, il y a plein de trucs dans Blender aussi, qui est un logiciel très ardu. Hein. C'est de la 3D, on en parle régulièrement. Et c'est un logiciel dans lequel il y a des centaines de menus, hein, réellement des centaines de menus, avec des notions très compliquées derrière.
Et effectivement, toi, tu penses que tu en maîtrises ?
Bah, une toute petite partie, je suis un éternel débutant. Voilà, moi je suis content de bricoler avec, hein, je ne ferai jamais rien de grandiose dans ce logiciel-là.
Mais on peut faire des films d'animation complets avec le logiciel.
On peut faire énormément de choses, oui.
Si on reprend tous les services de Framasoft, pour chaque service, Framasoft a fait des modes d'emploi, des how-to, comme on dit entre nous, pour que les gens apprennent à s'en servir. Donc forcément, à partir du moment où ils savent utiliser ce service Framasoft, ils sauront utiliser le logiciel qui est derrière et se l'installer chez eux et être totalement autonome.
Un des autres avantages des services Framasoft, c'est qu'ils mettent également un tutoriel pour les personnes qui ont des serveurs, qui soient capables de déployer eux-mêmes le service sur leur machine et donc potentiellement partager ce service avec leur famille, leurs amis ou des copains des internets. Tout simplement.
Moi, j'ai l'impression qu'il y a une grosse évolution qui s'est faite là ces derniers mois. On cherche à avoir, alors le mot est compliqué, mais de la bienveillance et qu'il y a plein de gens qui vont essayer de mieux accueillir. Et Linus Torvald, bizarrement, c'est un exemple. Il a fait un travail sur lui-même pour être moins méchant avec les nouveaux, avec les gens qui travaillent avec lui. Parce que clairement, il avait une réputation un peu compliquée. Et je pense que ce travail-là est fait par plus de communautés aujourd'hui qu'il y a encore quelques années où, au contraire, on allait dire bah, RTFM, hein, read the fucking manual, à n'importe quelle personne qui arrivait, qui posait une question un peu débutante.
Malheureusement, il y en a encore qui ont cette mentalité. Alors par contre, pour en sortir, ceux-là, moins de leur mettre un coup de pied aux fesses, je vois pas comment faire.
Après, c'est vrai que sur les derniers mois, on a vu beaucoup de codes de conduite apparaître un peu sur tous les projets. Il y a une nouvelle méthodologie aussi qui s'est mise en place au niveau des tickets bugs, par exemple, où les bugs sont triés et avec des tickets qui sont spécialement affectés pour du mentorat. Où donc ils vont dire ça paraît être un bug suffisamment simple pour comprendre le logiciel, comment il fonctionne derrière, et en même temps suffisamment intéressant pour s'en s'y intéresser si on est débutant. Et donc comme ça, vous avez beaucoup de tickets que vous pouvez chercher si vous voulez vous lancer dans un logiciel. Ça, c'est fait pour vous, et comme ça, vous allez pouvoir mettre le pied à l'étrier et vous essayer de faire des choses plus compliquées par la suite.
Alors, je pense qu'il y a aussi, du côté de la personne qui veut apprendre, bon, par une question d'autonomie, une question de volonté, il faut trouver l'info, se confronter à la difficulté. Et je pense qu'il y a aussi cette part aussi de savoir interagir avec les gens, en gardant bien conscience que c'est de leur temps libre qu'ils donnent sur quelque chose qui n'est pas productif pour eux. Pour avoir discuté avec Jean, qu'on a reçu ici quelques fois...
Un développeur de Gimp.
Entre autres choses, bah lui, il s'occupe de toutes les relations avec les gens qui écrivent à Gimp, et il y en a quand même un paquet qui sont agressifs, désagréables, etc. Et lui, il le fait parce qu'il sait que c'est bon pour le projet, mais ça lui coûte. Alors, il y a bien sûr des gens super sympas, mais voilà, il y a des gens qui peuvent être extrêmement désagréables. Et effectivement, c'est aussi une connaissance et un talent de savoir poser les questions en étant sympa, patient, et garder l'esprit que bah, les gens qui nous répondent dans les communautés, ils ne doivent rien à la base. Ce que je trouve particulièrement intéressant dans cette démarche-là, c'est que c'est de l'apprentissage par la pratique. Et ça rompt pas mal avec ce qu'on a tous connu à l'école, où on passe par de la théorie, de la théorie, de la théorie.
Ou des exercices, mais c'est ouais. Des exercices théoriques, c'est-à-dire qui aboutissent à rien de pratique finalement.
Et où on ne sait pas forcément où ça va nous mener à la fin.
Et là, bah, on prend quelque chose, on le bidouille, on essaye, et puis à la fin on le fait tourner, ça marche ou ça marche pas. Et, ouais, ça marchote, mais on apprend en se confrontant à des résultats, en se confrontant à une pratique.
La grosse différence avec l'école, c'est qu'on dit « vous faites un exercice, vous devez obtenir ce résultat », on n'en a rien à faire du résultat, alors que là, dans la vie professionnelle, on se forme à un logiciel parce qu'on veut obtenir quelque chose dont on a besoin pour X ou Y raison. Quand je fais des affiches à la librairie, bah, j'ai besoin d'affiches, j'ai besoin que ce soit joli, parce que bah, ça va être tout de suite hein, confronté à mes clients, j'aurai des réponses. Alors qu'une note d'un prof, ça ne va pas apporter quoi ?
Bah, rien. Un diplôme à la fin, éventuellement.
Voilà. Et puis il y a aussi cette idée dans l'exercice, c'est que souvent, il y a une bonne réponse. Or, quand on se met à mettre en pratique, dans le milieu professionnel notamment, mais dans toute autre activité, dès qu'on commence à faire, on s'aperçoit qu'en général, il y a plein de façons de faire, qu'on peut changer notre objectif aussi en se disant « j'avais visé ça, mais finalement, je vais décaler un petit peu », qu'on peut modifier énormément de choses et garder l'esprit agile. C'est très très important et ça, c'est quelque chose, à mon sens, que l'école manque pas mal.
Et après, dans l'informatique, la chance qu'on a aussi, c'est que les diplômes qu'on a ou pas, ça va être très vite gommé par l'expérience. C'est-à-dire qu'au bout de 2 ou 3 ans de manipulation, en fait, on a quasiment plus de disparité entre des personnes qui vont pas avoir du tout de formation et des personnes qui vont être ingénieurs. Et au final, tout le monde fait la même chose et c'est très vite gommé.
Ça va très vite, hein. Ça ouais. Va très très vite.
C'est l'obsolescence du diplôme.
Non, mais c'est d'autant plus dommage qu'en France, en tout cas, le diplôme est très très mis en avant et
c'est très valorisé.
C'est très valorisé. Notamment. Alors qu'en fait, aujourd'hui, moi, j'ai un ami qui a aucun diplôme. Il a arrêté en 3e et aujourd'hui, il est directeur technique de sa boîte. Parce que bah, voilà, il faisait de l'hôtellerie, lui, hein, pas du frigo, mais de l'hôtel. Et il a appris en 5 ans et il se retrouve aujourd'hui directeur technique et il est largement compétent et beaucoup plus compétent que beaucoup de personnes diplômées.
Quand on est informaticien, la question de l'auto-formation, c'est important parce que les technos, elles changent
tout le
temps.
On continue.
Et donc, la carrière d'un informaticien, c'est continuer à apprendre tout le temps.
Tout le temps, sinon très rapidement, on est obsolète. Hein.
De toute façon, c'est le credo des sciences en général. Si tu veux rester à la pointe de ton domaine, il faut que tu te formes régulièrement, que tu vois ce que les concurrents ont sorti comme sujet d'étude pour essayer de, toi, trouver un truc qui soit novateur. Et du coup, en informatique, c'est pareil. S'il y a un nouvel outil qui vient de sortir, si tu attends 10 ans pour te mettre sur la techno, bah, le petit jeune qui vient de sortir de l'école, il va te dégager vite fait. Hein.
Une différence que moi, j'ai vue en entreprise et dans d'autres milieux, entre ceux qui ont fait un parcours par les études, un truc un peu classique, un peu uniforme, on va dire, et quelqu'un qui va être autodidacte, qui va s'être formé par lui-même, c'est que la personne qui a fait le diplôme, elle a quelque chose peut-être de plus complet. Elle va peut-être avoir moins de trous dans son apprentissage, mais ça peut largement être compensé par la motivation. Et quelqu'un qui est très motivé, qui s'intéresse, qui s'amuse en apprenant, même si c'est de la bricole, hein, même si c'est des petits trucs le week-end, si c'est quelqu'un qui s'intéresse à ce qu'elle fait, elle peut vraiment dépasser largement la personne qui a fait un super diplôme dans une super méga école prestigieuse, mais qui finalement fait juste ce qu'on lui a demandé sans aller au-delà, sans s'intéresser à ce qu'elle fait et qui va vraiment faire un travail médiocre. Donc vraiment, la motivation, moi je mets ça en avant, même avant les capacités. Je pense que la motivation peut permettre de dépasser ce qu'on appellerait des capacités médiocres, peut-être, parce qu'on a jugé que non, vraiment, ça peut faire toute la différence.
Dans mon précédent boulot, j'ai fait beaucoup de formations sur un truc qui était voilà, un logiciel qui était, nécessitait pas mal de sens logique.
Pour le transport, hein.
Voilà, dans le transport, avec des gens qui n'avaient pas nécessairement des gros niveaux d'études. Et j'ai très régulièrement croisé des gens qui avaient vraiment des facilités à comprendre ces trucs logiques. Donc je pense qu'il y a plein de talents dormants partout. Tentez le coup, pourquoi pas.
N'ayez pas peur du code, c'est très bon, mangez-en.
Moi je me suis fait mordre une fois quand même.
Et puis il n'y a pas que le code hein, qu'on peut apprendre, hein, donc lancez-vous.
Oui, moi je bosse dans l'informatique, je ne code pas du tout, hein, donc on peut faire plein de choses. On se retrouve la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Salut.
À la semaine prochaine.